Killed by Up.
Et on reprend sur le format maxi.
On a failli couper le jingle, quelle honte. Après les questions corporelles et les enjeux d'infobésité, eh ben, les questions d'espace, parce que le maxi, c'est aussi tout simplement ce qui nous encombre et ce qui prend de la place chez nous. Et le numérique, en tout cas les technologies numériques, sont assez intéressantes, parce, et notamment les applications, elles sont toutes petites. Et derrière cet imaginaire miniature et pseudo-dématérialisé de ces apps, eh ben, c'est plus compliqué, parce que pour qu'elles fonctionnent, il faut quand même une grosse maxi infrastructure. Et je pense évidemment, on ne peut pas ne pas évoquer ça, aux data centers et aux problèmes écologiques que cela pose. Ils disparaissent, mais en fait, ils sont bien là quand même.
Bah, ça y est, tu m'as branché sur les data centers. Moi, je te branche sur le farming du Bitcoin. Sauf qu'attention, farming et Bitcoin, là, on a au moins deux termes que les non-geeks ne comprendront pas. Donc, Anthony, je vais alors, te laisser
plutôt
les
mining,
expliquer.
La génération de blocs par...
J'aurais déjà dire d'ailleurs que farming, ça vient donc du jeu de rôle et c'est justement le comportement dont je parle au tout début, le groupilisme.
Bah, c'est ça, mais de toute façon, là, les premiers mineurs de Bitcoin sont en fait des gamers parce que c'est eux qui avaient les cartes graphiques. Donc, il y a quand même un lien entre les deux qui est
assez intéressant. Mais t'as pas expliqué ce qu'était un Bitcoin pour les non-geeks?
Non, une émission à part.
Ou un système d'échange monétaire
décentralisé. Trois émissions, on fait
ça. Mais une définition rapide que les gens puissent suivre.
Peer-to-peer cash system, je reprends le titre du white paper, un système de pair à pair de monnaie électronique décentralisée. Voilà, pour faire vite. Ce qui pose du coup de gros problèmes écologiques, évidemment, mais le Bitcoin, c'est déjà vieux, c'est 2008. Et en Islande, alors il y a plein d'articles alarmistes, les gens consomment autant en Islande que, bref, que les ménages, j'en sais rien. Bon, c'est compliqué à calculer, c'est soumis à polémique, il faudrait aussi comparer ça à ce que consomme le trading haute fréquence, c'est juste monstrueux, par exemple, ou le distributeur de billets. Mais j'ai envie de positiver un petit peu et de regarder ce qui se passe, non pas du côté du Bitcoin, mais des crypto-monnaies ou des cryptos tout court plus récentes, de deuxième ou troisième génération, type Ether ou Neo. Neo, c'est le Ether chinois. Bon, je ne peux pas expliquer ça rapidement, mais grosso modo, 7 ordinateurs, paraît-il, suffisent à faire tourner l'ensemble du réseau dans le monde. Donc, potentiellement, une sortie de crise écologique à cet endroit-là.
C'est aussi un point sur lequel il faut qu'on revienne, parce que ces crypto-monnaies, alors surtout, encore une fois, pour les non-geeks auxquels je pense avec affection, qui peuvent nous écouter, ça peut être difficile à comprendre, c'est des technologies à l'origine assez légères, c'est-à-dire qu'on a l'impression de créer un peu avec pas beaucoup, mais du mini et du mini, ça fait du maxi. On a bien vu ça aussi avec les fluctuations récentes de ces crypto-monnaies dont les valeurs se sont envolées. Je précise quand même que j'ai 50 euros investis en Ether, je compte bien que ça m'en rapporte à peu près 10 000 fois plus.
On va racheter Radio Éphémère bientôt.
Exactement. Exactement. Mais en fait, ce qui est intéressant aussi, dès qu'on parle des crypto-monnaies en relation avec toutes ces questions de mini et de maxi, c'est aussi la dimension chiffrée de tout ça et à quel point le web amène ces réflexions chiffrées, mathématiques.
Analytics, les stats, on adore ça.
Ouais, et puis des stats qui peuvent être impressionnantes. 200 milliards de mails échangés dans le monde par jour, 50 millions de tweets par jour. Alors ça, c'est des données que je trouve chez Nick Arcaway, mais c'est presque des chiffres qui me paraissent assez modestes. On voit que tout de suite, cet imaginaire du petit, il amène l'idée de multiplier les choses petites pour amener du beaucoup plus gros. On l'avait un tout petit peu vu la dernière fois avec la question des nanotechnologies. Là aussi, les non-geeks nous suivront peut-être pas si on parle des Raspberry Pi, qui sont des mini-ordinateurs de la taille d'une carte bancaire et qui sont assez intéressants parce qu'ils ne sont pas très chers. Mais il y a quand même quelqu'un qui a réussi à construire un super ordinateur avec 750 Raspberry Pi. Donc voilà.
C'est les Gremlins, ton truc?
Les Gremlins.
Ça se multiplie, ça s'additionne, ça fait des gros monstres.
Moi, je pense que tu contrôles mieux les Raspberry Pi que les Gremlins quand même. Mais bon, t'as raison quand même de parler des Gremlins parce qu'il y a un imaginaire horrifique. Hein. C'est-à-dire que le lien entre le mini et le maxi, c'est la question de la croissance et notamment de la croissance non contrôlée. On est en plein, en fait, dans ces imaginaires capitalistes. C'est-à-dire qu'on a le droit d'être petit, mais à la condition de devenir gros. À moins peut-être que ça soit le contraire.
Ouais, et puis le problème, c'est que la Terre, elle est finie. Au bout d'un moment, on bute, quoi, on tourne en rond. Mais pour reprendre tes stats sur YouTube, alors j'ai un chiffre récent, je ne sais pas s'il est vrai, mais bon, 2,6 millions d'heures de vidéos déposées chaque mois. Et côté visionnage, on serait à environ, si on additionne tous les lecteurs de YouTube, 114 000 années visionnées par jour. Donc c'est juste monstrueux. Et c'est un exemple intéressant au-delà de ces stats, bon, je ne sais pas trop qu'on conclure d'ailleurs. Au niveau de l'application YouTube elle-même, c'est qu'on peut évidemment la consulter sur téléphone de façon classique, mais c'est aussi une app qui se regarde en maxi sur les télés connectées. Et on a tendance à évacuer ça quand on parle de responsive web design, de site adaptatif pour tous les écrans. On voit plutôt du côté du mini, mais on oublie qu'il y a tout un champ qui reste encore largement à explorer, me semble-t-il, du côté du responsive pour les grands écrans, donc les télés, les projecteurs ou autres, et que là, il y a encore beaucoup de choses à inventer, voire les moniteurs Full HD. Et paradoxalement, en tant que designer d'interface, je trouve ça beaucoup plus compliqué de concevoir sur ces écrans-là que sur des petits écrans qui sont maintenant assez bien normé.
Moi, j'aime bien ce que tu dis, Anthony, sur l'adaptabilité, mais je crois aussi que dans l'adaptabilité, il y a une notion, ou en tout cas, encore une fois, un imaginaire capitaliste qui s'invite à cet endroit-là. Le petit et le maxi, ces deux questions-là, elles sont aussi reliées par cette question de s'adapter au fond et d'être petit quand il le faut, de croître au bon moment. Un film qui est super emblématique de ça, je trouve, c'est un film que j'adore d'ailleurs, qui est Ant-Man. C'est-à-dire, je suis très grand quand j'ai besoin d'être très grand, je suis très petit quand j'ai besoin d'être très petit.
Je suis agile.
C'est ça, exactement. C'est le paradigme capitaliste par excellence. Je fais la taille que vous attendez de moi.
Et alors oui, je reprends ton exemple aussi des Raspberry Pi qu'on additionne. Il y a un autre projet plus artistique qui consiste à additionner des téléphones portables dans une soirée, qu'on les laisse de côté, et ça produit un calcul mutualisé, d'une espèce de ronde de téléphone. Ça pose aussi la question qui nous tient à cœur, du système des objets, que les objets ne doivent pas être pensés séparément, mais dans des ensembles techniques, dans des systèmes techniques. Et du coup, le maxi n'est jamais isolé du reste, des mini ou des autres objets.
Complètement.
Pas en tant que tel.
Mais ça nous ramène aussi à la question de l'habitat qu'on avait un tout petit peu laissé de côté la dernière fois. On peut pas parler de mini maxi sans évoquer cette espèce de mode qui a émergé à un moment donné aux États-Unis, le mouvement des tiny houses, donc les mini maisons, modèle dont on serait a priori revenu. Hein. Alors j'ai vu des articles un petit peu frileux sur la question qui disaient que les gens avaient démonté leurs maisons, les avaient revendues. Mais enfin, dans certains cas, il y a des cas aussi où c'est pas la mini maison qui était en cause, mais carrément parce que la loi n'autorisait pas à construire aussi petit, ce qui est quand même assez intéressant. Bon, ça se passe aux États-Unis, bien sûr. Au final aussi, j'aimerais quand même bien critiquer ce modèle-là parce que, bien sûr, on a eu cette phase où on a critiqué le fait d'avoir de grandes maisons remplies de plein de possessions. On est passé par le modèle des tiny houses qui sont toutes petites, mais on en revient aussi. Bon, grand, petit, mini, maxi, on est encore dans une binarité, un paradigme polaire, binaire, entre deux termes. Et on ne s'en sort pas. Et au final, ça peut nous amener à zapper la question quand même intéressante des besoins. Au-delà même de est-ce qu'il faut être petit ou mini, c'est tout simplement quels sont vos besoins et qu'est-ce qui correspond à ces besoins.
Ce que disait Xavier dans une précédente émission, finalement, c'est que minifier, c'est pas minimaliser. Il y a une différence entre les deux. Miniature n'est pas minimalisme, donc pardon pour ces points de vocabulaire, mais le minimalisme, c'est un courant de l'art contemporain. Il ne faut pas l'employer à n'importe quoi, ça ne veut pas juste dire simple ou épuré, c'est plus compliqué, c'est un rapport au sensible. Mais bon, peut-être qu'on retrouve quand même la question de l'ascétisme dans les deux cas, de se retrouver soi-même.
Je te rejoins sur le fait de faire la distinction entre les deux termes. C'est vrai que minimalisme et miniaturisme, c'est pas tout à fait la même chose, mais on peut quand même remarquer que dans un discours ou dans des représentations populaires, le minimalisme s'accommode assez bien du miniaturisme. Alors moi, je suis tout à fait obsédée par ces courants, notamment japonais, du minimalisme appliqué à l'intérieur. Marie Kondo sur l'habitat, mais aussi Tomio Sasaki. Alors Tomio Sasaki, c'est mon obsession. Il a écrit un bouquin qui s'appelle Goodbye Things, littéralement au revoir les choses. Et il a stratégiquement vidé son appartement jusqu'à n'avoir plus, je crois, qu'un matelas qui déroule et il dort dessus.
Mais voilà. C'est pas Goodbye Apps, il a quand même un smartphone, ton gars ?
Ouais, il a un smartphone. Ouais.
Non, non,
bien.
C'est
pas si minimal que ça, mais c'est assez intéressant parce qu'en fait, il y a une espèce d'assiette 16 appliquée à la décoration, qui est, moi, qui m'intéresse et qui, en même temps, je trouvais bien de son époque. Mais tu l'avais déjà abordé, Anthony, je crois, dans une autre émission. Encore une fois, hein, pour minifier ou minimaliser, il faut déjà avoir des choses à minimaliser. Quand on est pauvre et qu'on n'a rien...
On retombe sur cette question de classe sociale, en fait, dans la technologie, c'est que les règles qu'on donne aux autres, c'est pas forcément applicable. Et souvent, quand on parle des autres, on parle de soi. Donc, on retombe sur les impasses de la déconnexion qu'on évoquait dans le premier podcast. Ça date un petit peu avec la méthode de rangement qu'on marie. On peut jeter que si on possède déjà. C'est le paradoxe. Ceux qui sont pauvres n'ont rien à jeter, n'ont rien à ranger.
Moi, je crois qu'on s'approche de la fin de l'émission. Et du coup, je me dis que c'est la première fois qu'on a fait cette formule de podcast avec deux termes qui s'opposent. Et c'était pas mal parce que ça a permis un jeu de rebond. Mais surtout, moi, ça m'amène à penser quand même, c'est assez classique, mais néanmoins, ça vaut le coup de le redire, qu'au final, c'est vraiment la question de langage qui est hyper importante. On voit que mini et maxi, c'est utilisé à toutes les sauces, le plus souvent pour nous vendre des choses, bien sûr. Donc, comme tu l'as fait, ça vaut le coup de replacer cette distinction entre mini et micro. Entre ce qui prend moins de place et ce qui peut-être est miniaturisé, c'est pas tout à fait la même chose. Et puis des termes comme infobésité, qu'est-ce qu'on dit quand on dit ça, en fait, de qui on parle, de à quel corps on fait la peau, ou en tout cas à quel corps on place dans une situation de légitimité moindre.
Qui décrète que l'autre est obèse, c'est toujours la même question. Sous quel critère ? Et pour faire quoi ?
Une autre pensée qui me vient aussi à la suite de l'émission, c'est que j'ai l'impression dans toutes ces questions de minimalisme, alors soit pour remplir nos appartements, soit pour les vider, ce qui finalement, ces deux attitudes ont l'air opposées, mais quand même elles se rejoignent. J'ai l'impression qu'on est en train d'établir une sorte d'hypersensibilité à nos environnements. Tu vois, quand tu fais la curation de tes applications sur ton téléphone, quand tu fais la curation des trucs dont tu dois te rappeler, quand tu fais de la curation avec des bullet journal ou je sais pas quoi, on est en train d'adopter une sorte d'hypersensibilité à nos usages. Mais est-ce que ça, c'est vraiment un questionnement de design? Est-ce que c'est vraiment un questionnement au fond sur nos manières de faire?
Je pense qu'on peut renvoyer à Mona Chollet le thème du chez soi aussi, prendre soin du chez soi. Et est-ce qu'on les managers d'environnement, comme tu dis, on peut aussi le sous-traiter. On peut très bien acheter des tasks managers qui vont faire le ménage chez nous, mettre un truc au mur et se sous-traiter cette question-là, et du coup dépolitiser complètement l'environnement domestique, ce qui serait dramatique, je pense.
Tu vois que c'est marrant parce qu'on a discuté de cette question des managers d'environnement. Toi, évidemment, tu penses à des choses dont on a déjà parlé, tout l'arsenal Uber, Deliveroo et les gens qui viennent faire le ménage chez toi. Mais j'ai l'impression que nous aussi, on se pose comme des managers d'environnement, au final. On manage nos environnements et puis on a ces espèces de termes mini et maxi qui fournissent les
extrémités de l'équation. Peut-être qu'on ferait mieux de les ménager, comme dit Pierre Lamervic, le philosophe qui oppose le management au ménagement. Il ferait peut-être mieux de faire le ménage.
Ouais, après, ouais. Ou sidérer, considérer, Marielle Massé aussi, ça marche bien. C'est des bons ouvrages qu'on vous référencera sur le site.
C'est super. Et d'ailleurs, puisque tu parlais opposition maxi-mini, moi je me souviens d'un truc quand même, c'est qu'au début des années 2000, il fallait avoir un gros ordinateur portable pour paraître professionnel. Et après, justement, puisqu'on parlait de la gamme Air d'Apple, etc., mais c'était Sony qui avait commencé avant là-dessus, quand les ordinateurs petits devenaient beaucoup plus chers, tout d'un coup, c'était un signe de réussite, donc c'était un signe de professionnalisme en tant qu'indépendant d'avoir une bécane qui était plus petite.
Ça peut revenir chez les gamers, mais dans des niches maintenant, les gros ordinateurs.
Ça a été parodié aussi. Hein, je sais pas si tu te rappelles du film Zoolander avec Ben Stiller. Ils avaient des téléphones qui étaient si petits, ils n'arrivaient même pas à les tenir entre leurs mains, ils les tenaient entre deux doigts.
Ouais, un thème que j'avais mis dans les liens d'ailleurs de l'émission, c'était le fameux téléphone qui s'insère dans le tugudu.
Ah bah, je te reconnais bien là, une petite référence cul pour terminer. C'est
ah oui, non mais attention, hein, c'est propre et c'est bien amené.
Maxi bon goût.